Bonjour à toi et bienvenue sur Voyageurs de demain, le podcast qui te fait découvrir d'autres manières d'appréhender le voyage. Je m'appelle Hélène et je suis la petite voix qui va t'accompagner tout au long du podcast. Dans chaque épisode, je t'emmène à la rencontre d'un voyageur engagé pour te donner des conseils et t'inspirer à voyager différemment. Ensemble, on parle notamment de transition écologique, de voyage éco-responsable, de zéro déchet et de beaucoup d'autres sujets en lien avec l'écologie. Tu retrouveras toutes les notes des épisodes sur le site du podcast voyageursdedemain.com. Si tu as des questions, des remarques ou que tu souhaites me suggérer des invités, envoie-moi un email à hélène@voyageursdedemain.com ou un message sur le compte Instagram du podcast @voyageursdedemain. Aujourd'hui, je reçois Anaïs et Olivier. Leur décision de changer leur mode de voyage avec l'achat de leur van Odyssée leur a fait réaliser l'inadéquation de leur mode de vie et leur a donné envie d'aller vers plus de sobriété et de se rapprocher de la nature. Ensemble, on a parlé de van life, de minimalisme et de leurs astuces pour aménager son van avec des matériaux de récupération. Ils ont aussi partagé leurs conseils pour réduire ses déchets et sa consommation d'eau lorsque l'on voyage en van. On a également échangé sur d'autres sujets variés, comme celui de la pollution numérique, et de comment ils s'investissent à leur échelle dans leur vie professionnelle pour faire évoluer les consciences. Bonne écoute! Bonjour à tous les deux et merci d'avoir accepté mon invitation.
Bonjour Hélène!
Pas de soucis.
Alors déjà, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur qui vous êtes, d'où vous venez, qu'est-ce que vous faites dans la vie?
Alors moi je m'appelle Anaïs. On est arrivé sur Rennes depuis un an, tout rond. On a fait quasiment 10 ans sur l'île auparavant et on a voulu changer de vie et de ville par la même occasion. Et donc le premier qui trouvait du boulot à Rennes emmenait l'autre. Donc Olivier...
Il a trouvé un travail au mois de décembre. Du coup, ça fait à peu près un an qu'on est sur Rennes. Et on a acheté un camion tous les deux l'année dernière, en 2018.
Tu fais quoi comme travail?
Et je travaille dans le digital. Donc je suis chef de projet dans le digital.
Et toi, tu fais quoi, Anaïs?
Moi, je travaille, je suis chargée de communication pour l'Agence locale de l'énergie et du climat du Pays de Rennes. Et du coup, c'était un environnement de travail que je connaissais pas du tout, qui a commencé à me plaire quand on est arrivé sur Rennes et qui était tout nouveau pour moi. Ça commence à te plaire un petit peu, puisque tu commences, tu as une nouvelle mission aussi dans ton boulot.
Oui, tout à fait, depuis quelques mois. Donc, je suis Green Protection Officer dans mon travail. Et en fait, ça consiste à gérer la transition écologique de mon agence. Donc, c'est-à-dire de mettre en place des petites actions assez simples pour pouvoir changer les choses dans mon agence.
Dans notre vie pro, on a commencé tous les deux à toucher un sujet qui commençait à être un petit peu délicat dans la société. Et puis dans notre vie perso, ça commençait un peu à nous titiller. Et on a eu l'idée de voyager différemment en achetant un van l'année dernière. Donc c'était un moyen de s'échapper au début.
L'idée c'était d'être libre, donc de pouvoir choisir où on allait, vraiment à la dernière minute, de pas être contraint. Donc on avait regardé un peu les vans en location, et c'est vrai que le prix déjà nous avait un peu refroidi, et on avait trouvé des vans à acheter finalement qui seraient vite rentabilisés entre guillemets, puisque on aurait moins dépensé pendant notre location, et on aurait été gagnant, et on aurait changé un peu notre mode de voyage.
Du coup, vous avez un petit peu commencé à l'évoquer, comment elle s'est faite votre prise de conscience écologique à chacun?
Alors, ça s'est pas fait tout de suite, puisqu'au début, c'était vraiment une idée de... comme un échappatoire, ce van. Et en fin de compte, quand on a commencé déjà à chercher des véhicules, on s'est rendu compte qu'on pouvait pas prendre n'importe lequel. Fallait pas qu'il soit trop vieux, fallait pas qu'il pollue trop, fallait pas qu'il y ait trop de kilomètres. Donc, ça nous a un petit peu questionné déjà sur le choix du véhicule. Et ensuite, quand on a commencé l'aménagement, il n'était pas question d'acheter du neuf. On a voulu faire de la récup. Évidemment, on a eu de la chance d'avoir notre famille qui venait de, par exemple, d'aménager une maison ou de faire un agrandissement. Donc, on avait de la récupération. On en a profité et puis, de fil en aiguille, le van c'est devenu un peu notre maison sur roulette complètement récup.
Récup et customisé avec ce qu'il nous fallait.
Ouais, On a essayé de faire ça raisonnablement. Donc en fait, le déclic, il s'est fait un petit peu à partir de notre premier voyage. Déjà, on n'est pas parti loin. Au départ, le voyage pour nous, c'était vraiment plus on allait loin, mieux c'était. Et plus la découverte était extraordinaire. On est parti en Bretagne. La Bretagne, on connaît tous les deux. Et on a passé 2 semaines sur la route complètement inouïe, de découverte d'un paysage qu'on connaissait déjà, mais là on l'a vraiment vécu, on l'a pas juste passé, on a vécu nos vacances. Et sur place aussi, alors, on a eu plusieurs constats. Est-ce que tu veux en parler?
Du coup, pendant notre premier voyage, on s'est vite aperçu de notre impact. Donc, pour donner des exemples concrets, donc les déchets s'accumulaient assez vite dans l'habitacle. Donc, on avait beaucoup de papier, beaucoup de plastique avec ce qu'on achetait, donc dans la poubelle assez rapidement. Et comme le van est assez petit, on devait se limiter finalement dans ce qu'on achetait. Donc c'était le premier déclic pour moi, je pense. Oui.
Si on gardait le même rythme qu'on avait nous dans notre maison, avec une poubelle normale, on se rendait très rapidement compte qu'en fait c'était pas possible. Une poubelle normale dans un appartement, bah on s'en rend pas trop compte, mais alors la même taille de poubelle dans un van qui fait 5 mètres carrés, c'est pas possible, et du coup on prend vraiment conscience de la place qu'ont les déchets dans notre vie, et que c'est beaucoup trop, donc faut changer ça radicalement.
Donc ça, c'était le premier constat. Après, c'est vrai que le deuxième constat, c'était finalement l'utilisation de l'eau. Et un peu pareil qu'un appartement versus un camion, on s'en aperçoit pas forcément. Ouais. Avec le van, on s'est vite vu qu'on consommait beaucoup d'eau. Donc à la fois pour la vaisselle, les toilettes, pour tout simplement s'hydrater, l'eau du jerrycan partait très vite. Donc on s'est dit finalement, on avait peut-être pas la bonne façon de faire dans la vaisselle, la toilette. Peut-être qu'il fallait qu'on change quelque chose.
Voilà. Mais pareil, avec l'utilisation de l'eau, on fait la vaisselle et on se douche à l'extérieur. En maison, on ne se rend pas compte non plus des produits qu'on utilise. Shampoing qui mousse. Alors, plus ça mousse, mieux c'est. Mais l'eau, elle part rapidement et on ne sait pas trop où. Alors que là, on voit une flaque d'eau avec de la mousse. Et on se dit, ça, c'est peut-être pas terrible. Parce qu'on va se laver tous les jours et l'impact qu'on a sur l'environnement, on l'a vraiment devant nous au moment où on voyage. Et donc on laisse des traces. Et ça, c'était vraiment des claques qu'on se prenait chaque jour en mode punaise, on vit comme ça tous les jours et là, on s'en rend compte, on le voit. Il y a aussi un autre constat, c'était, c'est plus léger, mais on a pris les choses, on a pris nos affaires. On a rempli le van pour 2 semaines et en fin de compte, on a utilisé un tiers, même pas un dixième de ce qu'on avait prévu. On avait prévu confort et on n'était peut-être pas obligé de se surcharger comme ça. Et c'est un petit peu le schéma de notre vie. Aujourd'hui, on se rend compte on a 10 fois trop et on n'a pas besoin de tout ça pour être bien.
Donc finalement, le constat général de notre premier voyage, c'était qu'on avait besoin d'un peu plus de sobriété, à la fois dans nos déchets, dans notre utilisation de l'eau, ou de nos affaires, de nos vêtements, etc. On avait beaucoup de choses et finalement, on n'avait peut-être pas besoin autant et il fallait qu'on se limite un petit peu.
Et du coup, en fait, au final, votre prise de conscience, elle s'est faite grâce à ce changement en fait, de manière de voyager avec votre van.
Oui, tout à fait.
Oui, oui.
Si on voyageait, par exemple, en Airbnb, on n'aurait pas eu ce même constat. Mmh. On n'aurait pas eu l'impression de consommer trop d'eau. On n'aurait pas eu l'impression d'avoir eu trop d'affaires parce que on a notre valise qui serait passé dans l'avion, donc on n'aurait pas eu ce constat-là. Et le fait d'être en van dans un petit espace, on le voit plus rapidement et finalement, on a envie de faire changer les choses.
Comment est-ce que ça, du coup, ça a impacté votre manière de vivre au quotidien, pas juste dans votre vie avec le van, mais aussi dans votre vie sédentaire, entre guillemets?
Sur place, quand on partait en vacances, on se déplace beaucoup avec des tupperwares, par exemple, pour aller dans une boutique acheter... On n'est pas végétarien, donc on achète encore de la viande. On a réduit notre consommation, mais quand on voulait s'acheter des choses fraîches, on arrivait avec notre tupperware au lieu d'un sachet. Donc ça, on a réussi et on continue de le faire chez nous à Rennes. On a aussi bricolé des petits sachets en tissu, on a des pots en verre. Donc au niveau de l'emballage, déjà ça, on l'a adapté complètement à la maison. Pas simplement au voyage.
Et puis dans la fabrication de nos produits, comme le dentifrice, le produit vaisselle qu'on avait pour le van, finalement, comme on l'a produit pour le van, on avait aussi envie de l'utiliser dans la vie de tous les jours. On s'est dit, si on a cet impact-là dans la nature quand on voyage, bah, on a le même impact finalement dans notre appartement. Donc autant changer les choses dans les deux environnements.
Donc c'était un bel exercice, ces premières vacances au pluriel. Celles qui ont suivi, on est allé encore plus loin, c'était un petit peu comme un objectif. Alors pendant ces vacances-là, on essaye d'être zéro déchet. C'est vraiment pas évident, mais c'est un bel exercice à faire. On peut même le prendre comme un jeu. Ça peut être amusant de changer un peu ses habitudes, de se bousculer. Et on essaye de montrer l'exemple. Alors parce qu'on n'est pas des donneurs de leçons, on n'a pas envie de dire que tel ou tel geste est mieux que l'autre. Mais on aime bien montrer que la manière qu'on a choisie, ben, elle nous intéresse, elle nous amuse et elle nous rend heureux. On est content de le faire.
Et c'est quoi alors les challenges pour le zéro déchet en van?
L'anticipation, c'est un maître mot en voyage. Déjà pour manger, il faut avoir de quoi comment dire, faire son plat. Donc, ben, plus tôt dans la journée, si on passe à côté d'une boutique locale qui vend de la viande ou des légumes, alors faut y aller. Faut pas attendre le dernier moment, sinon on va tomber sur un spar en haute montagne et là, bah, le zéro déchet, c'est...
Ouais, c'est tout simplement se renseigner dans la ville dans laquelle on arrive, se dire bah tiens, je sais qu'il y a un marché tel jour sur telle ville, essayer d'anticiper un peu ces choses-là aussi, et anticiper en partant surtout, en partant en voyage, donc se faire une petite réserve. Nous, on a la chance d'avoir une réserve de nourriture, en sec en tout cas, en épicerie sèche, et on essaye de la charger au maximum avant de partir, dans la mesure du possible. Donc c'est aussi pour ça qu'on a envie de réduire peut-être les vêtements avant de partir, c'est pour laisser un peu plus de place à la nourriture. Ce genre de choses.
C'est amusant parce que ça nous permet aussi de sortir un petit peu des sentiers battus. Au lieu de viser une ville pour passer et peut-être faire des courses, on va viser un village qui est un petit peu en dehors. Et là, on est sûr de tomber sur une boutique, une micro-boutique de quelqu'un qui va nous vendre ses fromages. Et là, bah, c'est extraordinaire parce qu'on va avoir l'impression d'être un peu chanceux par rapport à une boutique lambda. Coccinelle ou Spar, enfin j'ai pas envie de dire des marques, mais on va sortir un petit peu de la ville et on va aller à la rencontre de quelque chose de local.
Et finalement, avec le voyage, c'est vrai qu'on acquiert au fur et à mesure aussi une expérience dans la recherche de ce genre d'endroit. On sait très bien que dans les grosses villes, dans les zones un peu industrielles, on va pas trouver ce qui nous convient. Donc on essaie de sortir justement des sentiers battus et d'arriver dans des petites villes où on sait qu'il y aura potentiellement une petite charcuterie, une petite boulangerie qui vont nous plaire, ou un marché.
Et du coup, est-ce que ça, vous avez des conseils pour bien trouver ces endroits-là?
Bah, pour l'instant, il n'y a pas trop
Le
de... Ouais, c'est un peu le
flair.
flair, un peu
Non.
l'expérience pour l'instant, mais après, je crois qu'il y a des personnes qui sont en train de créer une application en ce moment
Oui,
sur
des
tous
Français.
ces sujets-là de van life pour trouver les bons endroits, les bons produits, trouver de l'eau, parce que c'est pas évident en van de trouver de l'eau potable. Donc, il y a une application qui va bientôt sortir, je crois, pour trouver ce genre de produit.
Ça s'appelle Waveager, c'est des Français. Ils vont pas simplement s'intéresser au jour de marché, tout ça. C'est vraiment, est-ce que tu connais Park4Night? Park4Night, c'est une application pour trouver des spots pour faire dodo, en nature ou en parking, tout ça. Et eux, ils vont plus loin. C'est une communauté qui va répertorier les spots. Ça peut être des spots d'eau potable, ça peut être des spots de marché, ça peut être des spots pour faire du yoga. Comme c'est une communauté qui est censée alimenter l'application, voilà, le but c'est de dès qu'on a des astuces, faut le mettre dessus, quoi. Sinon, faut pas avoir peur de s'éloigner. Faut viser les petites communes et faut se dire que parfois on tombe dans des pays où bah il n'y a pas vraiment de commodité. Les gens sont quand même obligés de manger. On va forcément tomber sur quelque chose. Faut vraiment pas avoir peur de sortir de la ville ou des sentiers battus et faut aller loin du tourisme, surtout de masse. Là, on est sûr de trouver des choses sympas.
Vous avez commencé à évoquer que c'était un des défis en van life et aussi niveau consommation, l'utilisation de l'eau. Qu'est-ce que vous auriez comme recommandation par rapport à ça ou des choses que vous avez mis en place pour justement limiter votre consommation?
Alors déjà dans le camion, on a un jerrycan de 25 litres. C'est que de l'eau potable pour le coup. Celle-ci, c'est notre eau précieuse, on va dire, puisque c'est l'eau qu'on utilise pour cuisiner et pour s'hydrater, voilà. On remplit nos gourdes régulièrement avec cette eau-là. Donc 25 litres, ça part très très vite. Et avant, on l'utilisait aussi pour se laver. Donc c'était dommage quand même d'utiliser une eau potable pour se laver ou faire la vaisselle. Et avec nos rencontres de jeunes en van life, tout ça, on a rencontré des personnes qui avaient une douche à pression. Donc ça fonctionne comme une pompe. Et là, on n'est pas obligé d'avoir de l'eau potable dedans. Mais le fait d'avoir une pression, ça nous permettait de ne pas laisser couler l'eau au-dessus de notre vaisselle. Ça nous a permis de réduire considérablement notre
Consommation d'eau.
consommation d'eau. On le conseille, alors on a trouvé cette douche sur le Bon Coin. Il y en a énormément. Donc c'est pas hors de prix du tout, hein. C'est très très abordable. Mais si c'est pour économiser des centaines de litres d'eau par vacances, parce que c'est le cas, enfin, ça va très 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 vite, hein. Je pense qu'au tout début, 25 litres, ça partait en une journée. Aujourd'hui, on arrive à le garder quand même jusqu'à 3 jours.
Il y a d'autres petites astuces aussi pour la vaisselle. On a une petite bassine qui est pliable, donc qui prend pas de place justement dans le van aussi, qui nous permet d'économiser pas mal d'eau pour faire la vaisselle. Et récemment aussi, tu fais un peu moins de shampoing parce que les cheveux d'Anaïs, c'est un sujet pour la van life aussi et bah chez tout le monde. Mais en tout cas, elle a trouvé un produit qui permet de laver les cheveux à sec et qui est plutôt efficace.
Ça peut nous faire économiser 8 litres d'eau parce que les cheveux lavés tous les jours et rincés comme ça, c'est énormément d'eau. Et j'utilise du rasoul. Donc c'est pas une recette secrète, hein. C'est une pierre qui est sous forme de... Comment dire, c'est une pierre écrasée, enfin c'est de la poudre de pierre. Et le rasoul, ça veut dire pierre qui lave. Et je me frictionne les cheveux avec le rasoul et ça me permet d'avoir les cheveux propres tout le temps. Mais sinon, c'était un sport d'équipe pour économiser de l'eau, de faire appel à quelqu'un d'autre pour nous aider à tenir une bassine. Ou, enfin, c'est vraiment ça, c'était les prémices de notre économie d'eau, c'était l'entraide.
Ça, c'était avant la douche à pression. Et avec la douche à pression, c'est vrai que c'est plus facile maintenant.
Et aussi, les produits faits maison ne moussent pas du tout, comme le dentifrice. Donc plus il y a de la mousse, plus c'est long à rincer, hein. Mais le produit vaisselle, c'est pareil. On utilise du savon de Marseille et ça mousse très 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 peu et du coup ça se rince très très vite aussi.
J'aurais voulu voir avec vous comment vous avez choisi votre van et quelles sont les choses à regarder pour choisir un van qui va pas consommer ou polluer trop.
Pour nous personnellement, on a choisi un véhicule qui durerait dans le temps parce que déjà on choisissait pas un véhicule neuf, donc on savait qu'il y aurait certainement des kilomètres déjà au compteur. On s'est tourné vers un Volkswagen. C'est un des moteurs qui dure quand même bien longtemps et qui est assez fiable. Il y avait 140 000 kilomètres déjà au compteur et si on en prend bien soin, on peut rouler encore 300 000 kilomètres avec ça.
Comme c'était un utilitaire avant, il est obligé de passer des contrôles anti-pollution. Donc tous les 2 ans, il est obligé de passer un contrôle anti-pollution. Donc c'est vérifier qu'il est bien dans la norme. Donc, ça, c'était important aussi.
On a choisi aussi un diesel, puisqu'avec on fait des longues distances quand même. Normalement, en toute logique, un diesel c'est mieux pour les longues distances et une essence c'est mieux sur les courtes distances. Mais si on parle d'environnement, ni l'un ni l'autre n'est vraiment très très bon.
Des vannes électriques,
Il y en a, hein.
il y en a,
Il y en a de plus
c'est
en
très
plus.
cher. Et on n'est pas sûr aussi de trouver de l'alimentation dans tous les pays qu'on va visiter avec le van. Donc c'est aussi ça, il faut faire malheureusement la part des choix. Et le diesel nous semblait la solution la plus appropriée. Mais c'est vrai qu'en tout cas, s'il y a une solution qui existe et qui est un peu plus propre, on s'y intéresserait aussi, quitte à investir un petit peu.
Après, c'est vrai que on est conscient que le diesel, c'est polluant, mais on reste sur Terre, on n'a pas pris l'avion pour louer un véhicule sur place, comme on l'aurait fait auparavant. Mais notre vitesse, elle est quand même réduite. Au lieu de rouler à 120, on va rouler à 100. Au lieu de rouler à 90, on va être à 70. Et c'est aussi, une manière on va ralentir. De toute façon, on économisera un peu d'essence et puis on va aussi profiter du moment, quoi. Ça nous permet aussi de ralentir la vie en vacances.
De toute façon, il n'y a pas d'urgence, on n'est pas pressé, on prend le temps en vacances. Donc finalement, réduire sa vitesse, ça va un peu de soi.
Avant, donc, tu le disais, vous étiez des voyageurs plus du bout du monde. Qu'est-ce qui vous a fait changer du jour au lendemain, entre guillemets?
On a pris conscience de tout ça quand on est parti en Bretagne. On a profité, on a pris le temps, on a vécu. On n'avait pas l'impression d'être en vacances, on avait plutôt l'impression d'avoir des vrais moments de vie. Chaque moment est important. Même la vaisselle était importante, tout moment prenait son sens. Et c'était bien d'admettre que ce genre de vacances, on l'avait ici, comme on aurait pu l'avoir à l'autre bout du monde, mais on l'avait surtout devant chez nous, quoi. Il suffisait de pas grand-chose. Cet été, on est parti sur les routes de Slovénie en partant de Rennes. C'est pareil, c'est pas très loin, mais pourtant, on a eu l'impression de voyager, de faire un tour du monde. Ça nous satisfait, on est heureux, on voit des choses qu'on n'a jamais vues auparavant.
Aussi, le déclic, c'est vrai que moi, la Slovénie, j'avais déjà fait, par exemple. Donc, j'avais déjà été dans la capitale et j'avais un peu survolé le pays. J'avais pas forcément découvert. Et là, c'est vrai qu'en le refaisant cette année, c'est vrai que j'ai pris plus le temps. Donc, on a été un petit peu dans la campagne, on a découvert des choses un peu différentes. On a rencontré des gens. Alors que quand on était allé dans la capitale, la dernière fois où j'y suis allé, c'est vrai que c'était très rapide. On avait juste profité de la ville et on était parti le soir, le lendemain, quoi. Donc, c'est vrai que c'était rapide et on avait profité de finalement de rien du pays.
Quel serait du coup un ou des plus beaux souvenirs que vous avez de vos voyages en van jusqu'à présent ?
C'est dur. En fait, étrangement, comme on profite de chaque moment, on aurait même du mal à choisir entre une simple après-midi où on a bouquiné et peint à côté d'un petit lac et une journée où on a fait une rando de fou dans les Dolomites. Enfin, en fait, chaque petit moment prend une ampleur de fou dans nos souvenirs. Enfin, c'est dingue. Quand on arrive à prendre conscience du vrai temps qu'on passe l'un avec l'autre et sur la route, ça prend une saveur vraiment différente.
C'est vrai qu'on se souvient même des petites choses. On peut se souvenir des paysages qu'on a découverts. Par exemple, Anaïs a beaucoup aimé la Bavière. Je pense qu'elle en garde un souvenir très fort. Mais en même temps, on a un souvenir aussi très fort de quelque chose d'anecdotique, comme une petite sieste en Bretagne, dans un coin un peu tranquille. On profite de chaque instant.
J'aime bien ce que vous évoquez parce que c'est pas juste voyager et aller le plus vite possible, voir un maximum de choses. Ce que tu disais, juste se poser, bouquiner, ça c'est chouette.
Depuis qu'on a le camion, on s'est mis à faire des choses qu'on ne faisait pas avant, qu'on prenait pas le temps de faire. Moi j'ai eu envie d'apprendre à jouer d'un instrument, donc j'ai acheté un ukulélé. Et c'est chouette de passer un après-midi l'un à côté de l'autre, à faire chacun quelque chose de différent, mais à profiter de l'environnement et de la nature en grattant un petit peu les cordes.
Moi du coup je me suis mis un petit peu au dessin, alors je suis pas du tout un artiste et comparé à Anaïs encore moins, mais en fait c'est juste pour moi, je fais des petits croquis de temps en temps, que ce soit des paysages, des souvenirs, et ça me permet en fait de me poser, de me calmer, de vraiment de décrocher du travail, etc. Ça fait vraiment vraiment du bien et on pense vraiment plus à rien quand on fait ça. On lit aussi beaucoup.
Du coup, le premier bouquin qui nous a fait un petit déclic, c'est Olivier qui l'a lu en premier.
C'est de Julien Vidal, qui s'appelle « Ça commence par moi », et qui donne plein d'astuces vraiment pour changer son quotidien. Donc c'était tout à fait dans l'état d'esprit qu'on était quand on a acheté le van, donc ça faisait totalement sens. Et je l'ai découvert en voyage, donc ça m'a aussi donné envie de mélanger un peu les deux, de changer mon quotidien dans des moments comme ça, pendant les voyages. Après, un petit peu de la même façon, bah, on a lu des livres comme La sobriété heureuse de Pierre Rabhi, qui montre qu'on peut être heureux avec peu de choses, donc c'est pareil, ça fait sens. L'homme qui voulait être heureux de Laurent Gounel, c'est un peu pareil.
Et du coup, pour revenir justement, vous en parliez un petit peu avec le van, revenir vers plus de sobriété, notamment dans les choses que l'on a. Est-ce que c'est quelque chose aussi que vous avez mis en place chez vous?
Oui, tout à fait. Déjà, tout ce qu'on a adopté comme habitude dans le van, on l'a à la maison. La manière d'utiliser l'eau, de faire nos produits, tout ça. À la maison, on se décroche beaucoup de nos écrans. C'est primordial. Quand on est revenu de vacances, on s'est dit, bon, déjà, pour commencer, on a au moins une journée où on n'a pas de téléphone, où on se concentre sur autre chose. Alors, on se fait une soirée jeu de société ou une soirée dessin, aquarelle, musique, livre. On essaye de se détacher. Parce que on a pris conscience de la place que prenaient vraiment les écrans dans nos vies. Et c'est une vraie plaie, en fait. Ça nous a aussi détaché du matériel. On a moins de mal à se séparer de matériel qu'on a et dont on n'a plus besoin. On fait des allers-retours régulièrement quand même à Emmaüs pour déposer des sacs. Parce que on s'encombre. Et l'encombrement, bah, ça laisse pas de place après au reste, quoi. On a une pièce de vie chez nous, c'est l'atelier, donc c'est une pièce de couture, c'est une pièce pour faire de la méditation. Olivier qui m'apprend à méditer parce qu'il a lu beaucoup de livres là-dessus, et ben ça paraît rien comme ça, mais en fait méditer c'est aussi se concentrer, remettre un peu ses pendules à l'heure, et on prend le temps de faire tout ça. Et jamais on aurait fait ça avant d'avoir le van. Ouais, c'était vraiment un déclic.
Ce qu'on met en place dans le quotidien, c'est toutes les actions de « ça commence par moi ». C'est vrai qu'il y a beaucoup d'astuces qu'on n'avait pas forcément avant, qu'on essaie de mettre en place dans notre quotidien. des actions toutes simples, comme par exemple éteindre nos objets connectés le soir, éteindre les prises, essayer de produire des produits qui sont plus sains, etc. Tout ça, toutes ces astuces sont vraiment dans son livre, et même à la fin de chaque chapitre, il met une checklist où on peut faire ce qu'on a mis en place. Donc c'est vrai que ça, on essaye de le faire un maximum. Et après, on applique aussi un petit peu la méthode Bizou qu'il décrit dans son livre. Avant d'acheter un nouveau produit, on réfléchit à ce qu'il va nous apporter, pourquoi on a besoin de ce produit-là, est-ce qu'on en a vraiment besoin, est-ce qu'on peut le remplacer par un autre produit, ou est-ce qu'on peut le trouver, par exemple, sur le marché d'occasion. Maintenant, on achète beaucoup d'occasion, que ce soit Le Bon Coin, Vinted, Back Market.
D'ailleurs, j'ai vu justement, vous en parliez un petit peu, vous avez acheté un drone sur Back Market. Et vous avez des petits conseils d'ailleurs pour les gens qui veulent justement acquérir des objets reconditionnés, tout ça.
Forcément, on va conseiller de passer sur une plateforme comme ça parce que ça peut arriver qu'un produit ne fonctionne plus du tout. Il y a au moins la garantie de pouvoir le renvoyer. C'est vrai que ça refroidit certains d'acheter en seconde main et de se dire « Ouais, mais si ça marche pas, je me retrouve avec un produit cassé sur les bras ». Cette question écologique, c'était quand même notre première motivation de dire on n'est pas forcément bon partout, mais là-dessus on peut faire un effort. En soi, le drone, c'est pas forcément un produit dont on avait besoin à 100%, c'est pas un besoin primaire, c'était un loisir. Du coup, c'était quand même plus intelligent de notre part de pas choisir quelque chose de neuf et de faire la part des choses aussi là-dessus. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a plus rien qu'on achète de neuf, sauf dans les cas d'extrême urgence. On est en montagne, on n'a pas prévu de vêtements chauds parce qu'on est en été et qu'on n'a pas réfléchi. Ça nous est arrivé, on a dû acheter quelque chose de neuf. Bon, on n'a pas choisi quelque chose de neuf, de mauvaise qualité. On est allé dans une boutique dont on était sûr que ça allait nous durer toute la vie, voilà. Et plutôt que d'aller acheter quelque chose de moins cher ailleurs, et dans 2 ans, il allait être abîmé, filoché, on a préféré prendre quelque chose de bonne qualité.
C'est vrai qu'on revient à ce qu'on disait au début, c'est l'anticipation qui permet d'éviter d'acheter des nouveaux produits. Et là, on a été pris un peu de court, on n'avait pas assez anticipé. On savait pas qu'il allait faire aussi froid en Slovénie, donc on était malheureusement obligé d'acheter du neuf.
Vous en parliez un peu au début, vous avez aménagé votre van, et puis j'ai vu que vous étiez aussi en train de le réaménager. Vous avez des astuces justement pour faire soi-même, ou comme vous disiez, trouver du matériel de récupération, tout ça?
Faut pas avoir peur, par exemple, d'aller sur Le Bon Coin et d'avoir des chutes d'isolation, par exemple. Alors, il y a des gens qui refont leur maison et on n'utilise pas tous les rouleaux d'isolation. Le mieux, quand même, dans la mesure du possible, c'est de se renseigner sur le matériel qu'on utilise. Mais quand il s'agit de chutes, c'est du produit qui est déjà acheté, donc c'est moins grave. Mais quand on achète du neuf, si la personne décide de refaire son van avec des produits neufs, pour l'isolation ou pour le matériel, il vaut mieux se tourner vers du matériel plus naturel, comme de la laine de roche ou alors des petits copeaux de bois. Mais alors, quand on se décide de se lancer dans de la seconde main, de faire de la récup, on a moyen de trouver des rouleaux. Alors nous, notre isolation, c'était peut-être pas ce qu'il y avait de plus écologique, mais c'était des chutes qui allaient être jetées, et autant que ça serve. C'est un petit peu dépareillé, mais c'est là que la déco rentre en jeu. On a ramassé du bois de palette dans la rue, on a dû le poncer, alors faut y mettre un peu du sien, mais une fois que tout est poncé et qu'on a fait un petit coup de peinture, c'est joli, nous on est contents. Faut vraiment pas avoir peur du dépareiller et de se pencher un peu, quoi. Dans la rue, il y a des palettes qui vont être jetées, ou alors parfois il y a des travaux. Les ouvriers préfèrent donner plutôt que de conserver et devoir jeter, quoi. Que ça, faut pas hésiter à demander.
C'est vrai que le principal, ça reste quand même l'isolation, hein. L'élément quand même le plus important dans le van. Et si on a une bonne isolation, après, c'est vrai qu'on peut partir aussi avec peut-être un peu moins de vêtements, des couvertures un peu plus fines, etc. Donc on gagne de la place. Donc on a tout intérêt à avoir une bonne isolation dans le van, c'est vraiment le plus important.
Est-ce qu'il y a des difficultés particulières pour le voyage en van? Ou est-ce que vous avez déjà eu des galères?
Ça peut arriver, une panne, ça remet en cause tout un programme. C'est les aléas du voyage en van, ouais. C'est un budget aussi, hein. Faut bien entretenir sa maison, parce que si on entretient bien sa maison, on est plus à l'abri des couacs.
Après, vivre dans un petit espace à deux, des fois c'est pas forcément évident, mais nous on arrive à faire la part des choses, je pense. On s'est pas trop disputé, pas trop chamaillé, donc ça va. Mais ça peut être une difficulté pour certains couples. Ouais. Donc c'est aussi faire attention avant de partir et être sûr qu'on est fait pour ça aussi.
Bah nous, ça nous a plus rapprochés qu'autre chose.
Oui, ça.
Mais je pense que c'est quitte ou double, hein, voyager dans un petit espace comme ça, à deux ou à plusieurs. Ou... Voilà, il y en a qui sont faits pour voyager tout seuls. Et par moments, je comprends. Mais nous, on est fait pour voyager tous les deux, donc ça marche bien comme ça. Autre difficulté, on est confronté plus, je trouve, qu'en voyage en Airbnb, à la pollution que les gens laissent. On va arriver sur un spot qui est joli, qui va être parsemé de papier, d'emballage. Et là, ben, c'est soit on bouge, soit ben, allez, on prend un sac et on nettoie. Donc c'est ce qu'on fait et on est ravis de voir qu'autour de nous, ben, il y a beaucoup de personnes qui voyagent en van et qui font pareil, en van ou en tente, hein. Il y a beaucoup de bivouacs aussi qui font ça et c'est rassurant de voir que le déclic, il a été aussi dans la tête de d'autres personnes et donc ça, c'est cool.
La difficulté aussi, ça peut être pour certaines personnes de mettre un petit peu son confort de temps en temps de côté. C'est vrai qu'on est dans un petit espace.
T'évoquais, Olivier, que t'es Green Protection Officer à ton travail. Du coup, ça consiste en quoi exactement?
Donc concrètement, c'est mettre en place plein de solutions écologiques pour notre agence. Donc ça va être mise en place des composteurs pour l'agence. Donc tout ce qu'on va produire comme déchets, mettre en place des solutions, donc compost ou recyclage, de travailler sur la pollution digitale, parce que nous, on est une agence digitale, donc on doit montrer l'exemple sur ce sujet-là, donc c'est-à-dire d'envoyer moins de mails, des mails plus allégés, de moins stocker nos pièces sur les serveurs, d'adopter des bonnes pratiques, à la fois sur notre navigation internet ou aussi dans notre stockage, pour éviter justement de polluer plus. Après, il y a plein d'autres sujets, à la fois sur l'alimentation, des événements, des partenariats. À chaque fois qu'il y a un événement, on se pose maintenant la question de comment on peut le faire mieux et le faire plus intelligemment par rapport à ça.
Est-ce que tu vois un changement chez vos clients par rapport aux préoccupations
Et chez les clients, c'est encore un peu, c'est un peu tôt, mais on va y venir en tout cas en proposant des solutions pour les clients. Nous, on essaie déjà d'harmoniser un peu tout ça dans notre agence, donc on commence à avoir les bons comportements, mais bon, ils font quand même répéter pour que ce soit acquis chez chacun. Et chez nos clients, on va essayer de le mettre en place, je pense l'année prochaine, proposer des offres qui soient un peu plus écologiques aussi, et on produit moins de pollution digitale. Donc c'est les sensibiliser à ça et leur proposer ensuite une offre adéquate.
Je trouve que c'est bien que les entreprises commencent vraiment à y songer, quoi. Surtout la pollution digitale, c'est pas forcément quelque chose auquel on pense nécessairement. Mais...
Ouais, on pense d'abord à ce qui est visible et là c'est vrai que nous, comme on travaille dans cette partie-là, bah nous on le sait et on sait qu'on a des efforts à faire, notamment pour les mails, hein. J'ai fait un rapide calcul pour voir ce qu'on dégageait comme CO2 dans l'agence. C'est très impressionnant si on met les chiffres en face. Donc là, au dernier séminaire, j'ai pris la parole justement sur ces sujets-là, leur sensibiliser les collaborateurs sur leur impact et leur dire, bah vous savez, aujourd'hui un mail ça équivaut à tant de CO2. Donc évitez d'envoyer des mails tout simples, c'est-à-dire pour dire, bah c'est mon anniversaire, vous trouverez des bonbons en bas dans la cafétéria. Évitez de l'envoyer à toute l'entreprise parce que voilà, sachez que un mail comme ça, vous envoyez tant de CO2 dans l'atmosphère. Il y a un site qui est assez bien fait, c'est l'ADEME, qui communique sur ce genre de sujet, à la fois pollution digitale, mais aussi d'autres sujets sur l'environnement. Donc, je me nourris de ces infos-là et j'essaie de les communiquer, à travers l'entreprise.
Du coup, Anaïs, tu fais partie de l'agence Énergie et Climat de Rennes. Et tu fais quoi exactement?
Moi, mon but, c'est de valoriser les différentes missions de l'agence. Et l'agence, elle est là pour sensibiliser le public, que ce soit les institutions comme le grand public, aux divers éco-gestes qu'ils peuvent adopter au quotidien. L'agence a aussi des missions de conseils gratuits auprès du grand public lorsqu'ils veulent refaire leur maison, par exemple.
Vous avez commencé un peu à en parler à certains des livres qui vous avaient inspiré. Est-ce qu'il y a d'autres ressources que vous aimeriez partager pour les auditeurs?
J'avais lu aussi un livre sur la vie secrète des arbres de Peter Voleben, qui justement parle des arbres, de comment ils vivent, comment ils se construisent en société. Et ça me fait réfléchir aussi quand on garde notre van dans la nature. Bah, je me dis, bah, attention, là t'es peut-être dans une zone un peu protégée, donc peut-être recule ou laisse-leur de l'espace. Et après, quand on se balade en forêt, j'apprends des choses à Anaïs de ce que j'ai lu. Tiens, tel arbre, je pense qu'il est malade parce que regarde, il pousse pas normalement. Il est un peu de travers, il va pas, je pense qu'il va pas durer. Des petites astuces qui permettent aussi de nous rapprocher un petit peu plus de la nature pendant nos voyages.
Et c'est vrai que maintenant, une simple balade en forêt, c'est pas simplement marcher sur les feuilles mortes, hein. C'est vraiment, on observe réellement les arbres, on a l'impression de voir des individus. Dans le livre, Peter Volleben en parle vraiment comme ça, comme des individus et d'une société. Et alors, ça prend vraiment beaucoup, beaucoup de sens. Quand on dit que l'arbre est la vraie solution au climat, et ben là, on en prend vraiment conscience et on se rend compte de ce que vivent les arbres et aussi de ce qu'ils peuvent nous apporter, ce que nous, on peut leur apporter. Et c'est juste dingue. Cette lecture, on la conseille énormément. Olivier lit les livres avant moi, même si c'est moi qui lui ai mis dans les mains le fameux Julien Vidal. Alors, gros déclic. Du coup, maintenant, je peux plus arrêter Olivier dans ses lectures. Il s'achète constamment des livres. Il y a un site qui vend des livres d'occasion.
Ça s'appelle Recycle Livre. Il y a du choix et c'est aussi à la fois économique et écologique. C'est des livres d'occasion. Maintenant, on en achète pour nous ou on offre ce type de livre.
Il y a des trucs, il y a un an, j'en aurais pas entendu parler, j'en aurais jamais parlé de ma vie non plus. Voilà, on essaye vraiment de s'ouvrir sur des nouveaux horizons et d'échanger aussi. Nous, on s'inspire aussi beaucoup de ce qu'on voit et des échanges. On a beaucoup d'échanges sur Instagram avec des personnes qu'on n'a jamais rencontrées, mais peut-être qu'un jour on se verra sur la route. On se nourrit beaucoup de ces rencontres. Alors, c'est des gens qui viennent d'horizons vraiment différents. Et pourtant, on a quelque chose en commun, on a quelque chose à partager, une vraie passion, c'est le voyage. Mais on est tous conscients de l'impact qu'on a et de ce qu'on peut faire tous ensemble. On a pris aussi conscience que les gestes qu'on adoptait et les actions qu'on pouvait mettre en place avaient vraiment un impact. Il y a un jeune qu'on aime bien suivre sur les réseaux, c'est Partager, c'est sympa. Il donne les cartes pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui pour l'environnement. Il y a aussi Envers et contre tout, c'est un compte qu'on aime bien suivre sur Instagram.
Il va vraiment creuser des sujets, par exemple sur le textile. Il va vraiment nous expliquer pourquoi telle ou telle chose n'est pas bon. Il va vraiment au bout des choses. Il y a une enquête derrière un petit peu et il montre via des stories tout le cheminement de son enquête.
Il y a les sources de chaque élément, c'est très fiable et c'est intéressant. Alors parfois, ça fait un petit peu peur, mais c'est bien de prendre conscience. Grâce à cette prise de conscience, on s'est rendu compte qu'il était temps d'agir et que notre mode de vie actuel était un mode de vie qui ne nous convenait plus et que à deux, on a décidé de faire le deuil de notre confort qui était trop coûteux pour nous et pour l'environnement. Et que du coup, on se tourne volontiers vers un mode de vie qui est plus sobre et plus sain pour nous et qu'on s'est rendu compte que ce mode de vie nous rendait vraiment, vraiment heureux.
Et grâce au van, on s'est rapproché de la nature et on s'est surtout rapproché des choses simples, des petits bonheurs de la vie et on prend vraiment le temps de profiter de chaque instant.
On se sent plus en accord avec nous-mêmes. On n'a pas l'impression de se voiler la face ou de mentir ou de faire un truc pour plaire à l'autre. On a l'impression de faire quelque chose parce que bah, ça va de soi en fait. Bah, on fait attention à notre consommation, mais on se voit plus faire différemment en fait. C'est comme ça. On se voit passer la seconde. Je pense qu'on est sur la bonne voie pour faire quelque chose de pas mal. Ça nous plaît de partager un peu nos expériences avec les uns et les autres parce qu'on a beaucoup à apprendre aussi des autres. Et bah, ça nous motive aussi de se dire que ça peut en aider d'autres à avoir un déclic.
Quand on parle avec des gens, en général, ce qu'ils nous disent quand ils sont un peu dans le même état d'esprit que nous, c'est qu'ils ont eu un déclic.
Ces personnes-là sont un peu comme nous, ils ont l'impression de devoir corriger tout ce que la société leur a apporté qui n'était pas naturel. Et on est un peu tous de la même génération, alors 80 ou 90, on est nés avec tout sur un plateau d'argent, tout de suite. On nous a un peu mâché la vie, quoi. Là, ben, on n'en veut plus. Toute cette génération-là de jeunes qui se retrouvent dans la même situation que nous, ils ont besoin de se déconnecter et de se reconnecter avec quelque chose de vrai. Nous, notre mode de vie van life, c'est se reconnecter avec le vrai.
Merci beaucoup à tous les deux et puis bonne route à bord d'Odyssée.
Merci
Merci beaucoup.
Hélène.
J'espère que cet épisode t'a plu. D'ailleurs, tu peux me le faire savoir en t'abonnant et en laissant un avis 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça m'aide vraiment beaucoup à faire connaître ce projet. N'hésite pas aussi à rejoindre la communauté sur Instagram pour continuer nos échanges. À la prochaine!